Et notre invitée ce matin, ou plutôt Alpin qui s'est invité du côté de Volonne, Sandrine Gossera, bonjour.
Bienvenue à Volonne, Cyrielle.
Merci beaucoup de nous accueillir, maire de Volonne, vice-présidente déléguée à la transition écologique et citoyenne au sein de Provence-Alpes-Agglomération, présidente également des communes, de l'association des communes forestières dans les Alpes d'Haute-Provence. On va parler de Volonne dans quelques instants, puisque avant de réaliser cette interview, on a pu faire le tour de cette commune où il fait bon vivre, où il fait bon vieillir aussi. On y reviendra. J'aimerais tout d'abord revenir sur les élections législatives, sur l'une de vos publications sur les réseaux sociaux. Volonne résiste modestement, mais résiste. Hein. C'était votre publication au sortir des législatives. Une seule voix a fait la différence.
C'est
entre Félix Blanc, le candidat du Nouveau Front Populaire, 408 voix, 407 voix pour Christian Girard, oui. Le candidat du Rassemblement National, qui a été élu. Est-ce que ces législatives ont été pour vous un uppercut politique ?
Oh, c'est un terme un petit peu fort. On sait hein, la tendance. Hein, Et puis, bon... Malheureusement, on n'arrive pas à faire adhérer au projet de la fraternité, au projet du vivre ensemble. Enfin, on voit bien que ce sont des motivations autres qui motivent les habitants.
C'est toujours un vote colère pour vous, le Rassemblement National, ou maintenant ça devient un petit peu plus un vote d'adhésion, peut-être ?
Oui, il y a clairement maintenant un peu plus un vote d'adhésion par rapport à des thématiques qui sont sur lesquelles on met le focus, mais enfin, la qualité du vivre ensemble. Aujourd'hui, en fait, dans un département comme le nôtre et dans un village comme le nôtre, clairement, les sujets d'insécurité, les sujets des problématiques d'immigration ce n'est pas le quotidien des habitants. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent. Nos agriculteurs font venir des personnes pour faire des tâches que d'autres ne veulent pas faire. Donc, je pense qu'on... Malheureusement, on ne sait pas suffisamment éclairer ce qui fait le bon vivre qu'on a chez nous et qu'on éclaire des choses qui font peur.
C'est le rôle d'une élue comme d'une élue de collectivité territoriale, d'éclairer les esprits.
Oui. Alors, on a quand même le quotidien à gérer qui prend beaucoup d'énergie, le concret de tous les jours, hein, les écoles, l'accès aux soins, l'aménagement, le dynamisme aussi associatif. Hein, nous, on est très 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 branchés sur proposer des lieux de rencontre, hein, donc susciter. On en parlait tout à l'heure en faisant le tour de l'écoquartier. C'est beaucoup de travail ensemble, et le travail ensemble, ça prend du temps, donc ça prend déjà tout ça beaucoup de temps. Ensuite, il faudrait communiquer, effectivement. Il faut qu'on y travaille. Hein. Il y a un bulletin municipal, il y a effectivement des outils numériques qui nous le permettent. Intéresser nos habitants, ça fait partie. Alors, moi, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus sur des temps de présentiel, c'est-à-dire des réunions publiques, le forum des associations, l'accueil des nouveaux arrivants. Enfin, on essaye de créer... C'est-à-dire, justement, je pense que là, notre valeur ajoutée, c'est l'humain, c'est le vrai contact. Parce que, communiquer par les réseaux sociaux...
Ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le projet de fond.
Et puis on ne fait pas le poids. Ouais. On ne fait pas le poids par rapport aux grandes chaînes, et on ne fait pas le poids. Donc, notre force, c'est l'humain, c'est le quotidien, c'est la rencontre, c'est le sourire, c'est l'entraide. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à... Et là, vous voyez, sur une élection législative, clairement, l'enjeu, de toute façon, tout a été fait pour qu'il soit positionné très très haut au niveau national. Et du coup, même quand les gens connaissaient les élus et pouvaient leur faire confiance localement, ils n'ont pas choisi de leur faire confiance pour les représenter au niveau de l'Assemblée nationale.
Justement, alors ce bien vivre, ce vivre ensemble, j'ai fait le tour avec vous de Volonne. Alors, il y a eu beaucoup de bonjour, il y a beaucoup de chantiers de partout. Mais alors, des chantiers qui sont éco-conçus. L'éco-conception et la réalisation collective Ça fait partie de tout, en fait.
Ouais.
De tout ce qui pousse ici.
Il faut faire ensemble. Voilà. Mmh. Vous voyez, même quand on repeint une cabane dans une cour d'école, c'est. Bon, bien sûr, nos agents préparent la cabane, font la pré-couche, mais après, c'est une artiste du village avec les enfants du village. Et en lien, après une réflexion avec la directrice de la maternelle, qui vont peindre, repeindre, faire des animations sur cette cabane. Donc, et systématiquement, tous les lieux, en fait, ce sont les utilisateurs, en fait, qui participent à la conception du lieu. Bien sûr, les deux enseignantes ont eu leur mot à dire sur chaque mètre carré de la cour d'école maternelle.
C'est pas vous qui décidez dans votre bureau.
Non, voilà, jamais. Et ça se fait aussi d'ailleurs avec les agents qui derrière gèrent l'entretien. Ça se fait. C'est-à-dire que c'est tous ceux qui seront demain les parties prenantes du projet qui sont autour de la table au moment de la conception. Là, on va refaire l'école élémentaire. Ce sont, bien sûr, on a fait travailler les élèves sur leur projet de cours, voilà. On est bien sûr les enseignants, les parents d'élèves aussi vont être on a fait une réunion carte sur table là où chacun est venu donner ses idées sur comment on allait concevoir la rénovation de l'école.
Ouais. Il y a quelques jours, vous avez inauguré votre deuxième maison médicale, et j'insiste sur le deuxième maison médicale. 20 cabinets, hein, si je me trompe
pas. En tout, voilà, c'est 11 initialement dans la première, et puis 9 de plus dans la seconde. Voilà,
ça et fait... les spécialistes, les généralistes et les spécialistes, les sages-femmes ou autres, ils viennent.
Ils viennent.
Dans une commune comme Volonne.
Ouais.
Et ça vous étonne.
Alors, je pense que c'est aussi, en fait, au départ, on a travaillé pareil avec un noyau. Ils étaient 7 ou 8, hein, au départ, un peu fondateurs du projet, à avoir travaillé quand même pendant 4 ans, hein, avant que la première maison de santé émerge. Et c'est vrai que derrière, c'est l'état d'esprit qui s'est créé autour de ce collectif de médecins qui en a attiré d'autres. Et puis ces autres, même, avaient un réseau. Et en fait, derrière, il y a une ambiance. Qui a été mise en place, le fait de travailler ensemble, de sortir de l'isolement aussi hein, du médecin avant qu'on ait ce projet. Nos professionnels de santé, ils travaillaient chacun dans un cabinet, souvent dans une maison de village avec des problématiques d'accessibilité. Ouais. Voilà, donc ils étaient assez isolés finalement. Après, ils travaillent en groupe dans le cadre des réseaux de soins, hein, mais là, c'est vraiment leur quotidien. Ouais. Ils mangent ensemble et ils font des projets ensemble.
Alors, ça leur coûte moins cher.
Oui, en plus.
Ça leur coûte moins cher.
En mutualisant l'espace.
Voilà, ça mutualise l'espace, qui est important aussi pour une commune comme la vôtre, où chaque mètre carré compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a tout type de spécialistes viennent ici, des urologues et autres.
Oui, on a effectivement la chance d'avoir eu au tout départ un urologue de la polyclinique de Gap là, qui est venu. Et derrière, ils ont vu que c'était quand même intéressant pour eux aussi de pouvoir rayonner sur le 04 à travers la maison de santé hein, pour des consultations avant, des soins plus approfondis. Et il a emmené avec lui derrière un anesthésiste, un chirurgien des membres, des spécialités qu'on n'aurait absolument pas ici. Et vraiment, ça, c'est un vrai plus pour les habitants qui ne sont pas obligés de monter là-haut pour se faire soigner.
Soit d'aller à Gap, soit d'aller à Digne-les-Bains, ou voire même Aix-en-Provence, parfois.
Surtout, Aix, ouais.
C'est difficile de changer parfois les mentalités, parce que je pense par exemple à la médecine, quand on dit à un médecin, va t'installer dans une commune, la ruralité, ouf.
Ouais.
Compliqué.
Alors, peut-être, j'ai un bon espoir là, parce qu'en fait, nos médecins, dans cette dynamique, en fait, c'est ça aussi, en fait, le fait de travailler ensemble, ils se sont aussi, je pense, convaincus les uns des autres d'être tuteurs de stage et d'accueillir des internes, ce qui est quand même la réponse aux besoins de médecins demain. Et donc, ils sont tous maintenant formateurs, donc c'est tuteurs, et ils font venir des jeunes stagiaires. D'ailleurs, on a fait en sorte de pouvoir les accueillir en créant aussi un appartement d'accueil.
Donc les stagiaires viennent, ils sont logés ici.
Voilà. Et figurez-vous que là, j'en ai un qui est venu sur un précédent stage et qui veut revenir en fait habiter à Volonne.
Qu'est-ce qui a fait la différence?
il a aimé... en fait, il a vu qu'en fait, l'image de... Ça a déconstruit son image de la ruralité, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire d'une image très reclue, de personnes qui peut-être s'isolent, justement. Il a vu que, non, il y avait une vie de village qui avait pas mal d'activités, qui avait aussi un village beau.
Un village beau où on peut avoir des enfants. Il y a une crèche.
Oui.
Non, mais c'est important aussi quand on veut attirer des médecins. Il faut aussi attirer les conjoints ou les conjointes.
Tout à fait.
Il faut attirer les familles, les enfants, etc. C'est tout un panel de services qu'il faut apporter.
Voilà. Et c'est vrai que, à une échelle très humble, finalement, à l'échelle d'un village, mais il y a la crèche, l'école maternelle, l'école élémentaire, la médiathèque ludothèque qui propose des activités, un espace aussi de centre de loisirs qu'on partage avec l'escale. Donc nous, on a la crèche, ils ont le centre de loisirs, donc on mutualise aussi entre villages, c'est top.
C'est ça, c'est le travailler ensemble, y compris au-delà de ses frontières communales. Oui. On peut naître à Volonne et on peut mourir à Volonne.
Quasiment, alors ça c'est un
quasiment
projet, voilà.
D'EHPAD.
Parce que, en fait on n'a pas d'EHPAD et on a actuellement, alors c'est pas tant le modèle EHPAD qui a retenu notre attention, on est plutôt dans un modèle d'habitat partagé, habitat participatif, où des personnes âgées peuvent, on va dire, partager un même grand logement où ils ont chacun leur chambre et la possibilité d'être quand même un peu de s'isoler, mais une grande pièce commune. Et donc là, on travaille actuellement dans le cadre de notre de Village d'Avenir. On a été accompagné par l'État pour financer une étude de préfiguration d'un tel, en plus tout en proximité de la maison de santé, donc un établissement de cette nature-là.
Au cœur de l'éco-quartier ?
Quasiment, vraiment, juste en limite. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être le maillon qui manque pour, comme vous dites, pouvoir vivre sa vie au village. Donc bon, il y aura toujours la problématique à un moment des études qui nous oblige mais c'est bien aussi d'aller voir ailleurs
pour pouvoir revenir
voilà, pour comprendre que finalement qu'est-ce qu'on est bien.
Et j'allais te dire, alors l'éco-quartier, c'est ce qui a permis de prendre un virage, un grand virage du côté de Volonne. Non, je me trompe pas. Aujourd'hui, vous êtes pris en exemple de partout en France.
Alors, c'est vrai qu'on est, alors on est le 15e écoquartier de France à avoir atteint le label 4, le niveau 4 du label écoquartier. Donc c'est vrai que ça en fait pas beaucoup, et dedans il y en a très peu qui sont en milieu rural. Donc quelque part on a démontré effectivement la possibilité d'appliquer ce concept d'aménagement durable très complet, où on a une vision très globale de l'aménagement à l'échelle d'un petit village. Ça s'est fait aussi au prix de gros investissements de l'ensemble de l'équipe municipale, et puis de beaucoup d'aide aussi, ce projet, l'ensemble des partenaires, je vous ai parlé de l'approche très partenariale, donc l'ensemble des partenaires, que sont bien sûr l'État, la région, le département, la CAF, l'ADEME, l'Agence de l'eau, enfin, vous comprenez, là, il y a eu vraiment énormément de partenaires qui ont compris, en fait, le projet et qui ont souhaité l'accompagner, et l'agglomération aussi, bien sûr.
J'ai envie de vous dire, il y a plusieurs problématiques qui se posent dans les territoires ruraux. Très souvent, on entend des maires dire, mais de toute façon, on pourra jamais régler nos problématiques puisque l'État nous enlève tous nos services. Je vois qu'à Volonne, les services, ils sont là. L'État vous a suivi, tout comme le conseil régional d'ailleurs a pu vous suivre vous subventionner. En fait, pour tous les maires qui sont aujourd'hui défaitistes, fatalistes sur certaines choses, vous leur dites quoi ?
Je leur dis qu'on peut être accompagné, ça passe par poser un projet, en fait. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est accompagné là-dedans. Enfin, quand on se lance dans Petite Ville de Demain et maintenant Village d'Avenir, on a quand même un cadre, des propositions d'accompagnement pour bien poser son projet, pour le définir. Et c'est vrai que c'est... Au tout départ, il faut toujours une définition. Nous, on a pu démarrer vite. Je vais rendre hommage à nos prédécesseurs qui avaient, avant qu'on arrive en 2014, élaboré un programme d'aménagement solidaire du village. Ouais. Bah nous, en fait, au départ, il y avait déjà les grandes lignes.
Elles étaient déjà tracées.
Bah voilà, ça, alors, il y avait des choix à faire. Donc, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les mêmes que nos prédécesseurs, notamment sur la maison de santé. Mais en tout cas, il y avait quand même déjà un diagnostic, un état des lieux, des orientations. Et nous, on a pu se remettre là-dedans. Donc, il y a besoin vraiment d'un document un peu cadre qui dit où on veut aller, quelles sont les priorités. Et après, bah, évidemment, il faut les planifier. Il y a quand même besoin d'ingénierie, et parce que bah, ça, surtout quand on n'a pas beaucoup de sous, bah, il faut aller chercher des subventions. Donc, il faut élaborer des dossiers, et ça nécessite de l'accompagnement.
Ça vous inquiète justement aujourd'hui que le gouvernement demande aux collectivités territoriales, les plus grosses bien évidemment, mais c'est celles aussi qui subventionnent les projets, notamment le conseil régional ou le département, d'être mises à contribution pour redresser le déficit public ?
Je pense que... il fallait à un moment ouvrir les yeux sur le fait qu'on a beaucoup dépensé pour sortir des crises. Enfin, en tout cas, pour amortir. Hein, on a sorti un gros amortisseur qui était la planche à billets. À un moment, il faut rembourser. Hein, c'est partout pareil. Hein, donc, d'un côté, évidemment, c'est un peu anxiogène, parce que on a vu ce matin, il y a encore des projets dans les tiroirs. Donc,
oui, rien, tout n'est pas fini à Bologne.
Non, il y a tant à faire. Et ça ne sera pas sans argent des partenaires. Hein. C'est pas possible. On ne peut pas, on n'a pas les moyens. Donc, en même temps, ça va nous obliger à trouver justement tout ce qui génère des économies, à trouver des partenariats, je pense, nouveaux, à être innovant. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous avez vu, quand on dit que peut-être c'est pas tout n'est pas financier. Je veux dire, à un moment, refaire une peinture d'un cabanon, ça coûte pas cher. Par contre, la façon de le faire, hein, ça change tout. Le faire avec les enfants, le faire avec de la couleur et de l'envie. Voilà. Donc, je pense que ça va nous obliger aussi justement à plus mutualiser. C'est-à-dire que nous, on l'avait déjà mis, comme on n'avait déjà pas de sous, on avait déjà mis comme concept.
Donc, il fallait en effet trouver les bons concepts.
Les principes de mutualiser. Ouais. Et au final, tout le monde s'y retrouve parce que vous avez vu la gratuiterie, c'est tout petit.
Alors oui, la gratuiterie d'ailleurs qui a donné lieu à un reportage sur Alpe 1, la gratuiterie qui est menée par deux bénévoles, le local est mis à disposition par la mairie, les gens apportent leurs objets dont ils ne se servent plus et d'autres personnes viennent pour les récupérer sans rien donner.
Et ben voilà, et vous voyez un concept de service à la population, de lien social, parce que pour moi, l'aspect numéro un, c'est le lien social. Moi, je trouve ça formidable. Des jeunes du village, ils savent que quand ils s'en vont de chez leurs parents et qu'ils s'établissent, ils viennent à la gratuiterie faire leur kit de démarrage. Quoi. Moi, j'adore ça. Je trouve ça formidable. Ou les enfants qui viennent faire le cadeau de Noël, qui va bien, ou d'anniversaire, de fête des mères. Enfin, c'est zéro. C'est juste du bon sens, de l'envie de vivre ensemble.
Une gestion de bon sens. Les jeunes reviennent s'établir à Vaulogne.
Oui, alors les jeunes familles, donc avec des enfants, effectivement, il y a cette attractivité là, on l'a senti de jeunes couples. Alors il y a des personnes qui reviennent de la ville, hein, donc il y a peut-être quelque chose aussi là, cette envie de nature, de ruralité finalement. Et il est fort probable qu'on doive ouvrir une classe à l'école maternelle en septembre.
Alors qu'on en a fermé jusque-là.
Jusqu'ici, c'était plutôt des fermetures, depuis 20 ans.
Si on devait aujourd'hui, si on vous donnait une baguette magique.
Ah,
et
oui.
On vous dise, Sandrine Cossera, faites un vœu, il sera réalisé, ce sera lequel ?
Ah,
bonne question. Ça n'arrive pas, c'est vrai.
Je dirais que c'est que tout le monde réalise la beauté de notre territoire et le fait qu'on vit bien ici et d'arrêter de voir ce qui ne va pas, pour voir aussi ce qui va, et avoir le souhait de l'entretenir, de le préserver. Voilà.
Cette gestion de bon sens aujourd'hui que vous voulez décliner de partout à Volonne, vous l'aurez encore en 2026, vous aurez encore cette volonté d'être maire.
Alors, je pense que ça fait partie de mon caractère que de co-bâtir. Avec un maximum de gens. Donc si, bien sûr, il y avait une équipe qui, dans le même esprit, avait envie de poursuivre cette transformation, mon idée, c'est d'aller vers ce que le 21e siècle apporte de meilleur. Donc, volontiers de repartir. Et par contre, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut une équipe.
Mais il faut donc une équipe.
C'est donc un appel.
C'est donc un appel. Rejoignez les forces vives de Sandrine Cosera. Une dernière question. Le gouvernement voulait revoir la copie concernant les agences postales.
Tout à fait.
Notamment enlever 50 millions d'euros de ce contrat, ce qui menaçait plusieurs agences postales.
Complètement, particulièrement chez nous.
Particulièrement, dans les Alpes du Sud. Le Premier ministre semble être revenu.
Oui.
Ça n'est pas fait encore.
Et non, voilà. C'est-à-dire que, il a vite compris. C'est quelqu'un qui a été élu, qui sait de quoi on parle quand on parle de ruralité et d'agences postales communales.
C'est un montagnard.
Donc, je pense que les personnes avec qui, David Lisnard, Renaud Muselier, le Stéphane Travers, qui dirige, qui est à la tête de l'ONPP, donc l'Office national de présence postale, donc sont des personnes qui l'ont rencontré. Je me suis entretenue avec eux sur ce sujet-là, puisque je préside la commission de présence postale sur le 04. Très rapidement, d'après ce que j'ai compris, il a vite vu que c'était un point sur lequel il fallait revenir. Donc il a pris, lui, l'engagement de le proposer. Sauf que ce n'est pas lui qui va voter la loi de finances.
Ce sont les députés, notamment Sophie Vaginet, Christian Girard.
Voilà, donc il faut qu'il... Vous avez une réponse ? Non, je n'ai pas eu de réponse. Et donc c'est un appel, effectivement, à ce qu'il il travaille au niveau de l'Assemblée nationale sur... en tout cas, ils auront des regards sur beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'ils oublient celui-là pour notre territoire.
Voilà. Et d'ailleurs aussi, ça pourrait forcer les élus à réfléchir aussi différemment concernant la présence postale. Vous avez pris l'exemple de Revesse-des-Brousses.
Oui, formidable exemple. Ah là là. Muriel Garot, donc ma collègue maire de Revesse-des-Brousses, fait son petit écoquartier finalement. C'est un petit clin d'œil parce qu'en 2020, elle était venue visiter avec son équipe et on avait parlé justement de cette façon d'aménager. Et notamment, elle a mis en place en fait un agent de la commune qui tient à la fois l'épicerie et l'agence postale.
Voilà.
Donc l'intérêt, c'est que à travers le contrat de présence postale, il y a à peu près 50% du salaire de l'agent qui est financé par le fait de tenir cette agence postale. Et en même temps, c'est une épicerie. Alors elle est adorable, j'invite tout le monde à aller découvrir cette épicerie. On a eu quand même la chance d'avoir Philippe Val, quand même PDG du groupe La Poste, 250 000. salarié qui vient à Revesse-des-Brousses pour visiter l'épicerie agence postale. C'était un beau moment en fait, et lui-même, puisque je l'ai recroisé quelques jours après, il m'a montré la photo. Il a gardé dans son appareil la photo de cette agence postale, parce que pour lui c'est la démonstration de ce qu'est la Poste et de ce que veut rester la Poste.
Au plus proche de la population.
Ah, mais vraiment. Et ça, c'est aussi un discours que je veux avoir, c'est-à-dire que on est quand même assez souvent dans une relation un peu de défiance. Je crois que là, tant que Monsieur Val sera à la tête de ce groupe, il a redit plusieurs fois, là, quand on l'a rencontré la semaine dernière, c'est « je veux rester sur les territoires ». La Poste veut rester sur les territoires. Et je pense qu'il faut qu'on sache l'accueillir et pas... Et j'y crois, en tout cas. J'ai quand même plein de signes qui me montrent que... ils ont aussi cet intérêt. C'est leur force. C'est leur force. Ils sont sur les territoires. Alors, bien sûr, ils veulent diversifier leurs services. Ils veulent beaucoup travailler, par exemple, sur le fait d'apporter des repas aux personnes, parce que bon, on voit bien aussi que rester de plus en plus en autonomie chez soi, enfin on va pas pouvoir mettre tout le monde dans des maisons de retraite, donc la question de l'apport du repas va être important. Ça fait, c'est aussi l'avenir de nos territoires qu'il faut qu'on dessine, et je crois que là on a un partenaire, la plus grosse flotte de véhicules électriques d'Europe, donc c'est-à-dire qu'ils se déplacent avec une empreinte carbone qui est quand même diminuée par rapport aux autres prestataires de... Donc c'est intéressant, voilà, je crois que là on tient un partenariat assez exceptionnel à travers aussi ce contrat de présence postale, qu'il faut qu'on maintienne, qu'on garde. Je crois qu'ils font partie du projet de demain. Quand je vous disais qu'il fallait voir demain, et ben voilà. Ouais. En tout cas, moi, je vois demain aussi avec le partenaire La Poste.
Et dernière question pour la fin. La ruralité, elle sera sauvée si on change un petit peu les mentalités, qu'on n'attend pas tout de l'État, mais qu'on arrive à se repenser soi-même.
Oui, alors je pense d'ailleurs en ruralité ou en ville, enfin de partout. C'est vrai qu'il y a le fait de... pour avancer, il faut avoir de l'envie. Et pour avoir de l'envie, il faut écrire un projet qui nous plaît. Voilà. Et pas uniquement, on va dire, subir les tensions fortes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un système mondialisé qui change les règles du jeu, qui nous met en tension. Hein. Et je crois que c'est un peu projet contre projet. Et que nous, on peut, en tout cas, localement, on peut avoir très envie d'un modèle et le proposer. C'est pas, pour moi, c'est pas un modèle de repli sur soi.
Au contraire.
Voilà.
Merci beaucoup, Sandrine Cossera, de nous avoir accueillis ce matin, Alpe 1, au sein de cette magnifique commune de Volonne. Merci à vous.
C'était un plaisir. Merci.